L'Extrême-Orient de Saint-François-Xavier. Voici une conférence de Michel Cartier, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et secrétaire général de l'Institut Ricci à Paris. Conférence enregistrée le 19 avril 2016 à Bayonne lors du colloque du 5e centenaire de la naissance de Saint-François-Xavier, 1506-1552. L'Extrême-Orient de Saint-François-Xavier, Michel Cartier.
Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, alors je vais aujourd'hui, pour la fin de cette matinée, vous présenter l'Extrême-Orient de François-Xavier. Alors, bon, je ne reviendrai pas beaucoup sur la vie de François-Xavier. Mon prédécesseur a longuement évoqué la création des jésuites. Alors, il fait partie de la toute première génération des jésuites. Et comme simplement, je veux dire, pour commencer, que ce tout nouvel ordre de jésuites n'a pas encore pris l'ampleur de ce qu'il est devenu à la fin dès le milieu plutôt de la deuxième moitié du XVIe siècle et surtout la fin du XVIe siècle et début du XVIIe siècle. Alors, mon exposé va se diviser en trois grandes parties. Alors, tout d'abord, bon, François-Xavier est comme l'a précisé ce matin, Monseigneur, était à la fois nonce apostolique et, si vous voulez, une sorte d'ambassadeur auprès des Portugais. Du monde. Il va représenter la papauté aussi dans l'Extrême-Orient. Mais je vais donc commencer par vous expliquer ce qu'était l'Empire, ce qu'on appelle l'Empire portugais. C'est un mot bien pompeux on va essayer de se représenter quelles étaient les réalités. Par le traité de Tordesillas, dès 1494, c'est-à-dire 2 ans après le premier voyage de Christophe Colomb en Amérique, à la découverte de l'Amérique, les Portugais et les Espagnols, les deux couronnes de Portugal et d'Espagne, se partagent le monde en deux. Alors, j'ai tout de suite précisé que c'était assez compliqué, puisque c'était partagé par un méridien qui passait à 200 milles des Açores, à l'ouest des Açores. Mais comme on n'était pas capable, ou c'était très difficile à l'époque de calculer la longitude, puisque les longitudes n'ont été connues avec précision qu'au XVIIe siècle, surtout à partir du XVIIe siècle, on ne savait pas jusqu'où allait le territoire réservé aux Portugais, où était la frontière, où passait la frontière dans le Pacifique, qu'on n'avait pas encore découvert d'ailleurs, entre le monde, la sphère d'influence portugaise et la sphère d'influence espagnole. Alors donc, les Espagnols vont tout de suite essayer dans les Caraïbes, et ensuite vont gagner le continent espagnol. Les Portugais, eux, au contraire, poursuivent la route autour de la circumnavigation de l'Afrique. Et dès 1498, Vasco da Gama double le cap de Bonne-Espérance, passe dans l'océan Indien, et donc va jeter les bases de ce qui va être ce qu'on appelle l'Empire portugais. Alors, comment ça se passe? Alors, je dirais tout de suite, premièrement, les Portugais sont déjà depuis plusieurs dizaines d'années en train de suivre, ils ont suivi les côtes africaines vers le sud, donc ils connaissent l'Afrique. Et alors, deuxièmement, les Portugais envisagent leurs expéditions c'est une poursuite de la reconquista et de la guerre contre les musulmans. Et leur but principal, c'est de ravir aux musulmans le monopole du commerce des épices qui était obligé de passer par l'océan Indien et ensuite la Méditerranée qui était dominée par les Turcs. Et alors, les Portugais vont faire des expéditions de conquête. Mais ce sont des conquêtes, on va voir, très limitées. Alors, je rappelle les grandes dates. Alors, en 1498, Vasco da Gama aborde la côte indienne, utilise le mécanisme de la mousson, et donc aborde les côtes du sud, de la côte, ce qui est actuellement les Malabars. Bon. Il est blessé dans un combat et il est retourné au Portugal dès 99 et il laisse sur place Cabral, qui bon, va diriger les expéditions portugaises. Alors Cabral est tué quelques années plus tard. Bon, et les Portugais sont obligés de repartir. Et c'est seulement en 1510 que les Portugais conquièrent. On a attaqué Calicut, mais c'est seulement en 1510 que les Portugais conquièrent Goa, qui était un entrepôt important du commerce. C'est une île d'une, je crois, 150 ou 200 km carrés qui est sur la côte occidentale de l'Inde, mais qui était déjà un entrepôt important du commerce de l'époque. Et les Portugais vont créer finalement ce qui sera la seule ville portugaise importante de cet empire portugais, qui devient la capitale de l'empire portugais dans ce qu'on appelle les Indes. Alors, les Portugais, mais alors très vite, les Portugais continuent leur guerre contre les musulmans et dès 1511, ils s'emparent de Malacca, qui était un sultanat, qui était aussi une place de commerce importante, enfin en face de celle de ce qu'on appelle maintenant l'étroit de Singapour, l'étroit de Malacca, enfin, qui était finalement une place extrêmement importante d'où on a accès d'un côté à l'Extrême-Orient, en suivant les côtes en allant vers le nord, et vers les îles de la Sonde, ou les îles productrices des épices, en continuant vers l'est. Et ce qui intéresse les Portugais, évidemment, ce n'est pas l'Extrême-Orient directement. D'abord, ce sont les îles de la Sonde. Et très vite, donc, les Portugais vont continuer à soumettre les petits sultanats musulmans qui sont installés et qui contrôlent le commerce des épices. Alors très vite, donc, les Portugais vont arriver à contrôler les Moluques, les cultures de clou de girofle, qui était une des épices les plus importantes. Mais il ne faut pas oublier aussi le poivre était une épice très importante. Et le poivre est cultivé beaucoup plus largement dans la région. Donc, en particulier dans ce qui est maintenant l'Indonésie, les îles d'Indonésie. Donc Goa 1510, Malacca 1511. Très vite, on a contrôlé les îles des Moluques, mais les Portugais ne vont pas vers le nord. Ce qui est tout de même important, c'est que Malacca est une place commerciale internationale très importante, c'est un sultanat qui était vassal de l'Empire de Chine. De l'Empire chinois, et où il y avait une présence chinoise assez importante, puisque beaucoup de marchands chinois fréquentaient, et qu'il y avait un commerce entre Malacca et la Chine du Sud canton. Et alors, l'intrusion des Portugais va brouiller un peu les pistes, puisque selon le système chinois, le commerce n'est autorisé co-tributaires. Normalement, ce sont les gens qui font le commerce se présentent comme des gens du sultanat de Malacca. Eux sont autorisés à aller en Chine, on envoie des ambassades, des missions de tribus, et ont le droit de faire du commerce. Mais dans beaucoup de cas, il y a aussi beaucoup de Chinois qui sont un peu des contrebandiers ou des immigrés un peu clandestins qui participent à ce commerce. Et alors, donc, dès que les Portugais sont installés à Malacca, ils se disent, bon, allons voir ce qui se passe au nord, et ils découvrent que la Chine, et en particulier, c'est un marché pour le poivre. C'est pas le clou de girofle ou les autres épices, beaucoup étaient des marchés pour être expédiés en Europe, mais le poivre aussi, mais le poivre avait été acheté, qui n'est pas produit en Chine, était un objet important du commerce entre Malacca et la Chine. Et alors, les Portugais, mais un petit peu clandestinement, ouais, ça n'est pas une compagnie, abordent dès 1514, c'est-à-dire 3 ans après, ou 4 ans après être venu à Malacca, les premiers bateaux portugais abordent en Chine. Et alors, bon, sous quel statut a-t-il? Il n'a pas vraiment de statut, puisque le Portugal n'est pas connu. Alors, les Chinois ne savent pas qui sont ces gens. Et alors, ils ne sont pas véritablement autorisés. Ils sont un peu considérés comme des contrebandiers ou des expéditions. Mais ils s'installent dans le commerce du poivre. Et alors, très très vite, pour régulariser cette situation, leur relation avec la Chine, les Portugais imaginent d'envoyer une ambassade en Chine qu'ils vont confier à un spécialiste. Ce n'est pas un homme qui avait une importance dans la hiérarchie coloniale qui se mettait en place, enfin, portugaise, mais qui s'appelle Tomé Pires, mais qui était d'une famille de pharmaciens, donc de droguistes, si vous voulez, et qui était un connaisseur des épices, et qui va être chargé dès 1517, de diriger une ambassade en Chine pour établir des relations sur ce que, enfin, les Portugais imaginent que les relations diplomatiques s'organisaient de la même façon qu'en Europe. Donc, on va offrir des présents à ce qu'ils appellent le roi de Chine, ils ne savent pas exactement, et que c'est un empereur, ils ne connaissent, bon, ne connaissent pas encore la situation, et ces Portugais vont débarquer. Alors, en 1517, Tomé Pires part avec un bateau bon, j'avais des images à vous montrer, mais on ne peut pas les projeter. Mais les bateaux portugais étaient des bateaux, des caracs, c'était de gros bateaux qui sont capables de faire des expéditions très longues. Mais n'oublions pas non plus que ces expéditions très longues étaient dangereuses, parce que d'abord, beaucoup de marques, il fallait emporter de la nourriture, les traversées étaient longues, donc on n'avait pas toujours de nourriture fraîche, et bon, le scorbut était un des dangers des marins. Et puis, il y a aussi les naufrages. Quand on lit des récits de l'époque, on voit qu'énormément de bateaux font naufrage. C'est seulement à la fin du XVIIe, surtout au XVIIIe siècle, qu'on voit les naufrages deviennent beaucoup, beaucoup plus rares. Mais jusqu'au XVIIIe siècle, vous voyez, aller en Extrême-Orient, c'est une expédition dangereuse parce qu'il y a beaucoup de naufrages. Et par exemple, un collègue hollandais a calculé qu'on pense qu'un tiers des Hollandais qui étaient des marins qui partaient dans les expéditions sont morts. Donc la mortalité était très élevée. Et chez les Portugais, c'était aussi. On voit, quand on lit les récits, on voit que les dangers de naufrage sont importants, les dangers de toutes sortes sont importants. C'est une expédition qui est dangereuse. Et alors, bon, là j'insiste pour dire, puisque ça va être le premier contact réel entre les Portugais et l'Empire chinois des Ming, qui n'est pas, j'insisterai, qui n'est pas encore, on n'identifie pas la Chine que les Portugais découvrent en 1517 au cathay de Marco Polo, qui avait été décrit par Marco Polo, et on ne sait pas, personne ne sait s'il s'agit du même pays ou encore, et il faudra attendre la fin du XVIe siècle pour qu'on soit sûr, qu'on a établi avec certitude que le cathay de Marco Polo, donc la Chine gouvernée par les Mongols, est identique à la Chine qu'on découvre en 1517. Alors, les Portugais arrivent donc, débarquent à Canton en 1517. Bon, là, la navigation n'est pas très longue, parce que quand on profite de la mousson, avec les bons vents, c'est un voyage de 2 mois, ou à peu près, sans grand danger, qui est très sûr, puisque on a le vent en poupe, exactement. Donc, ces Portugais arrivent, mais les Chinois ne les identifient pas. Et alors, les Portugais ont fait traduire, puisqu'à Malacca, il y avait une communauté chinoise, ils ont amené des interprètes, ils ont fait traduire ce qu'ils appellent des lettres de créance, mais ça ne correspond pas non exactement aux documents que les Chinois ont apportés à l'empereur de Chine. Et ils débarquent donc à Canton. Les autorités locales sont surprises. Qui sont ces gens qui se présentent? Ils disent qu'ils viennent de Malacca. Bon, Malacca est un sultanat très bien identifié par les Chinois, avec qui est un tributaire de l'Empire chinois. Mais les gens qu'on voit ne ressemblent pas à des gens de Malacca. Et donc, on les fait d'abord attendre 3 ans à Canton avant de leur donner l'autorisation. Et puis, alors, je précise aussi pour un petit peu, c'est qu'ils arrivent à un moment assez délicat, parce que bon, l'empereur Wuzong, qui règne de 1506 à 1521, bon, était, alors, pour la petite histoire, on sait maintenant qu'il était homosexuel, et malgré, bien qu'il possède un harem, il n'a jamais eu d'enfant. Et les Chinois étaient très perplexe, et donc on savait qu'il y aurait une crise dynastique à la mort de cet empereur. Et cet empereur, qui n'était pas en très bonne santé, bon, était malade. Et alors, en 1520, après avoir attendu 3 ans, les Portugais sont autorisés à partir vers Pékin, et il se trouve que l'empereur était lui-même parti visiter Nankin, près de l'actuel Shanghai, l'ancienne capitale de l'Empire des Ming. Et là, donc, les Portugais vont rencontrer, mais d'une manière informelle, cette ambassade portugaise va rencontrer l'empereur à Nankin. Et d'après les récits chinois, on sait, l'empereur s'est intéressé, il dit, tiens, des gens que personne n'a jamais vu, qui sont ces gens, dont personne n'a jamais entendu parler, et alors que dans une audience impériale, on ne parlait pas à l'empereur, on ne voyait pas, on le voyait de loin, on allait faire des prosternations devant lui. Là, l'empereur a voulu discuter avec les Portugais et on dit même qu'il aurait appris quelques mots de portugais et qu'il a été très, très intéressé par ces gens nouveaux. Et puis l'empereur rentre à Pékin et les Portugais sont autorisés à partir vers Pékin pour accomplir leur mission de tribu. Mais malheureusement pour eux, quand l'empereur rentre à Pékin, il est déjà très malade. Donc, ils arrivent à Pékin. Ils ne peuvent pas rencontrer l'empereur puisqu'il est malade. L'empereur meurt. Il y a une petite crise dynastique puisqu'il faut décider qui sera le successeur. Et normalement, d'après la règle chinoise, la succession doit toujours appartenir à quelqu'un d'une génération en dessous, mais la génération de l'empereur était jeune, il n'y avait pas, personne ne correspondait, ou à moins que les Chinois ne préfèrent pas mettre un tout petit enfant sur le trône. Donc on a choisi un cousin germain qui est adopté par cet empereur. Alors avant de mourir, l'empereur donc adopte un cousin germain et pour qu'on puisse. Mais alors, ça suscite de nombreuses discussions dans la cour en Chine, parce qu'on trouve que c'est une succession pas du tout conforme. Et les Portugais sont là à attendre, et pendant qu'ils attendent, une mission de Malacca, des vrais sultans de Malacca, arrive en Chine pour se plaindre en disant que les Portugais ont usurpé le pouvoir et demander une intervention de la Chine qui pouvait intervenir dans des cas de ce genre, pouvait intervenir militairement pour remettre en place son véritable tributaire. Alors les Portugais donc vont être renvoyés à Canton et mis en prison. Et donc ce premier contact avec la Chine, un contact très malheureux puisque les Portugais vont être en prison pendant des années et on ne sait pas exactement combien de temps, mais d'après la date officielle, beaucoup de gens pensent que Tomé Pirèche est mort en prison en Chine en 1524, d'autres pensent qu'il est peut-être mort beaucoup plus tard, peut-être même vers 1540. Et donc, il va y avoir une espèce de contentieux entre la Chine et le Portugal, puisque les Chinois, les Portugais vont... Il y a des prisonniers portugais en Chine, et il faudra faire libérer ces prisonniers portugais. Alors, les Portugais envoient une nouvelle mission pour libérer leurs prisonniers, qui est dirigée par Coutinho. Et Coutinho la joue de malheur. Quand son bateau aborde un canton, des Chinois montent sur le bateau, malencontreusement mettent le feu aux poudres, ce qui est le cas, vraiment le cas de dire, à la réserve de poudre, le bateau explose, 200 Chinois sont tués, et donc il n'est plus question de Portugais, et donc les Portugais vont rester en prison. Alors, pourquoi j'ai insisté? C'est pour vous dire que finalement, les Portugais n'ont pas accès à la Chine pendant très longtemps, et que quand François Xavier va arriver en Chine, les Portugais n'ont toujours pas accès en Chine. Bon. Alors, bon, je n'insiste pas trop sur... Bon, je ne vais pas... Alors, le deuxième problème, c'est que, voyez, les Portugais, en particulier la suite de l'explosion du bateau qui a provoqué la mort de 200 soldats chinois ou de Chinois qui étaient montés pour inspecter le bateau, bon, les Portugais jouissent d'une réputation désastreuse d'être des pirates. Et effectivement, puisque on va voir, les Portugais vont continuer à venir en Chine, puisque le commerce du poivre est très intéressant, ils continuent à venir vendre du poivre en Chine, mais ils ne peuvent pas vendre officiellement, donc ils le vendent soit par l'intermédiaire de Chinois qui sont plus ou moins considérés comme des émigrés clandestins, parce que la Chine, à ce moment-là, interdit à ses ressortissants de sortir, sauf pour aller dans des pays qui sont reconnus, qui sont considérés comme des tributaires. Et donc, les deuxième point, c'est que au début du XVIe siècle est caractérisé en Chine par ce qu'on appelle les attaques des pirates japonais. Bon, c'est une expression, les Chinois disent woko, veut dire, ce n'est pas le mot, ils utilisent un mot très ancien qui ne désigne pas, ce n'est pas le mot normal qu'on utilise pour le Japon, mais c'est un mot qui veut dire, qu'on traduit souvent par des nains japonais. Il s'écrit avec un caractère chinois qui peut se comprendre comme nain. Mais c'est une histoire complexe, puisque dès le début, depuis le deuxième siècle de notre ou le troisième siècle de notre ère, donc les Japonais ou les gens qui se trouvent entre la Corée et le Japon étaient appelés des wa. C'était le nom que les Chinois leur donnaient, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient des nains, mais probablement qu'ils étaient on ne sait pas exactement, probablement phonétiquement, c'était un caractère chinois qui était utilisé phonétiquement pour désigner des gens qui habitaient en Corée ou au Japon. Alors, ces pirates japonais sont une menace. Mais bon, on les appelle des pirates. En réalité, ce sont plutôt des contrebandiers. Donc, ce sont des gens qui font des opérations de contrebande et qui ne sont pas japonais, puisque au XVe siècle, c'était essentiellement des Japonais. Au XVIe siècle, il y a des gens de toutes sortes. Et on voit, d'après les récits ou les documents chinois, on sait qu'il s'agissait très souvent de gens d'Asie du Sud-Est, de Chinois transfuges ou de véritables Japonais. Mais tous ces gens, très souvent, adoptaient l'habit, les armes utilisées, les armes des Japonais, et donc ils se présentaient comme des Japonais. Et donc, c'est pour cette raison que les Chinois sont très vigilants et interdisent tout commerce en dehors de cantons, des ports reconnus comme Canton et Ningpo, plus au nord que actuellement dans la baie de Rangzhou, dire au sud de Shanghai actuellement, qui était le port autorisé aux Japonais. Alors, donc si on lit les récits des Portugais, donc entre 1520 et 1550, les Portugais n'ont absolument pas de droit. Ils sont interdits de commerce en Chine, mais ils y viennent clandestinement et en se mêlant à ces gens qui font l'interlope. Deuxièmement, les Portugais vont s'installer sur des petites îles côtières chinoises qui sont des îles inhabitées et qui ne sont pas des îles contrôlées par l'administration chinoise. Donc, vous avez une espèce de... Les Portugais, les Chinois, les Chinois émigrés clandestinement et les Japonais ont donc une suite de bases dans des petites îles qui sont des îles inhabitées, qui sont considérées comme par la Chine comme un no man's land. Alors bon, si j'insiste, bon, je ne vais pas trop revenir là-dessus, donc on n'ira pas jusqu'à Macao, puisque François-Xavier est mort à l'époque où les Portugais sont... Mais donc, c'est pour vous dire qu'à l'époque de François-Xavier, le Portugal et personne n'a gratté en Chine, ils sont interdits de commerce et qu'ils sont considérés comme des pirates. D'ailleurs, les Chinois les appellent, le mot que les Chinois utilisent pour désigner les Portugais, c'est Folangji, qui vient de Franck, qui est une transcription des mots que les musulmans utilisent pour désigner les chrétiens et les ennemis, puisqu'on est quand même dans un monde où les chrétiens sont en guerre contre les musulmans. Et la guerre des chrétiens contre les musulmans se prolonge jusque dans les îles des Moluques, puisque une des îles est appelée par les Portugais l'île des Moros. Et par exemple, on sait que les îles du sud des Philippines, actuellement, il y a encore des rébellions musulmanes. Donc, les musulmans sont présents jusque-là. Et alors, les chrétiens sont en guerre contre ces gens. Et les Chinois aussi vont les considérer comme des pirates. Bon. Alors, maintenant... Bon, comment les Portugais vont-ils arriver en Chine? Les Portugais vont arriver, avant d'arriver en Chine, ils vont arriver au Japon. Alors, on ne sait pas exactement, c'est aussi très intéressant, parce qu'on ne sait pas exactement à quelle date les Portugais sont arrivés au Japon, parce que les bateaux portugais qui arrivaient au Japon n'étaient pas des bateaux envoyés par Goa, qui n'avaient pas de... Mais c'était des bateaux des freelances, qui agissaient pour leur propre compte et qui se trouvaient dans un no man's land. Et alors, d'après les récits officiels, on dit que le Japon a été découvert par un marchand portugais qui était lui-même un peu pirate sur les bords, qui s'appelait Mendes Pinto, qui a d'ailleurs connu François-Xavier au Japon et qui a voulu même entrer dans la Compagnie de Jésus et qui aurait, d'après des récits... on sait qu'il a véritablement abordé au Japon, mais tout ce qu'il a... Mais on sait d'autre part que les récits qu'il a laissés de ses voyages en Chine sont assez fantaisistes, puisque les Portugais avaient une connaissance de la Chine. Puisque les prisonniers de la première ambassade ont réussi à faire passer des lettres donnant des informations précises sur la Chine, mais les Portugais, aucun Portugais ne pouvait entrer sur le territoire chinois. Et alors, d'après le récit de Mendes Pinto, c'est un récit où il y a toujours beaucoup de naufrages, donc c'est très difficile de reconstituer si c'est véritable ou pas, parce que chaque fois, quand il vous dit je suis parti de tel endroit, j'ai fait naufrage, je suis débarqué à tel endroit, j'ai repris un autre bateau, j'ai refait naufrage, etc. Et Mendes Pinto raconte, et ça devient beaucoup plus sûr, et les Japonais par exemple considèrent que c'est vrai, qu'il aurait atteint les Okinawa vers 1542 et le Japon entre 1542 ou 1543. Et alors là, on entre dans l'histoire. Les Portugais arrivent dans l'île occidentale, la plus occidentale du Japon, qui est l'île de Kyushu, qui était d'ailleurs une île d'où partaient tous les pirates japonais. Et ils débarquent dans une petite île qui s'appelle Tanegashima, en japonais. Et là, ils racontent que, comme les... Portugais avaient des armes à feu, que les Japonais n'avaient pas d'armes à feu. Il a fait une démonstration d'arquebuse aux Japonais, qui ont été enchantés, et il leur a appris à utiliser l'arquebuse. Alors, c'est assez curieux, parce que les Chinois avaient des armes à feu, même des canons, canons moins précis et moins dangereux que les canons portugais, parce que les Portugais avaient une supériorité, mais tout de même, les Chinois avaient des armes à feu, les Japonais n'avaient absolument aucune arme à feu, et les Portugais ont peut-être probablement aidé les Japonais en leur apportant des armes à feu. Le succès de l'arquebuse a été tel, c'est que, bon, disons, l'arquebuse serait introduite vers 1543, dès 1560, c'est une arme assez courante au Japon, et une arme qui change totalement la façon de combattre, puisque le Japon est conquis par les armes à feu, et ensuite par le canon, ce qui va, on va y venir plus tard, amener toutes sortes de transformations de la guerre, de l'architecture militaire, etc., au Japon. Et alors, les Portugais qui vont au Japon sont finalement neuf noms de contact qu'avec des seigneurs locaux de l'Ouest qui sont très liés aux pirates. Et d'ailleurs, si on voit les implantations portugaises, les premières implantations, les Portugais n'ont pas d'implantation, ils n'ont pas d'endroit, mais ils fréquentent Kagoshima, qui est la ville importante à Kyushu, pas loin de l'île de Tanegashima, et puis Hirado, qui devient un port important japonais, mais c'est le port des pirates, c'est pas le port du grand commerce japonais. Bon. Et donc, pour résumer, bon, les Portugais, dont Saint-François-Xavier le dit dans une de ses lettres, dit que l'Empire portugais, c'est en réalité une quinzaine de forteresses avec des petites... Donc, il y a Goa, qui est une ville sino-indienne, luso-indienne, je dirais, portugaise-indienne. Vous avez une quinzaine de forteresses. Les Portugais, d'ailleurs, pensent leur action, on fonde une forteresse, et à côté de la forteresse, vous avez des villages ou une petite communauté où il y a des indigènes qui sont sous le contrôle des Portugais et qui sont souvent christianisés un petit peu de force. Bon. Selon les méthodes, puisque ce sont des musulmans, donc on applique les méthodes qu'on utilise dans la péninsule ibérique. Donc on va convertir les musulmans qu'on a sous la main de force, et très souvent. Bon. Mais les Portugais ont envisagé de faire la même chose en Chine, par exemple de s'emparer, de faire un document portugais qui dit qu'avec 6000 hommes, on peut s'emparer de la ville de Canton, y construire une forteresse et avoir une base importante. Mais bon, les autorités portugaises ont pensé quand même que c'est une opération trop importante, 6000 hommes et des bateaux de guerre, quand même, et que les Chinois réagiraient brutalement, probablement trop brutalement, et que ce n'est pas faisable. Alors, les Portugais ne sont présents que dans un chapelet de petites îles, entre le sud, la province de Canton, et la baie de Rangzhou actuelle. Et de là, on va... Alors, pourquoi la baie de Rangzhou? Parce que c'était le port... c'est là que se trouve le port qui était assigné aux Japonais, où les Japonais avaient le droit de faire du commerce, où les Japonais s'en contentaient. Et alors, à la suite d'incidents sur lesquels je ne reviendrai pas, les Japonais sont interdits, complètement interdits en Chine à partir, en gros, de 1550. Donc, voilà la situation au moment où arrive François-Xavier. Les Portugais possèdent une quinzaine de forteresses, une ville Goa, des bateaux qui circulent, mais ils ne sont théoriquement interdits dans la mer de Chine, et ils sont tolérés au Japon parce qu'ils fréquentent des seigneurs qui font la piraterie, qui sont derrière la piraterie japonaise. Alors, bon, maintenant, j'en viens à la deuxième partie de mon exposé. Bon, je vais aller vite puisqu'on nous a lentement expliqué les débuts de la campagne de Jésus. Comment François-Xavier, qui est de la première génération des Jésuites, arrive très vite, est envoyé en mission en Asie, avec le titre de nonce apostolique, représentant aussi du pape vis-à-vis des Portugais, dans l'Empire portugais. Alors, bon, Comme on dit, la compagnie a d'abord été créée d'une façon, seulement d'une façon formelle qu'en 1539. Bon, elle ne compte, comme on vient de vous le rappeler, les 11 règles, les jésuites ne pouvaient pas être plus de 60 jusqu'en 1544. Donc, mais un des personnages politiques qui a essayé de soutenir la compagnie, nouvelle compagnie de Jésus auprès du pape, a été le roi du Portugal, Jean III, et qui tout de suite a voulu avoir des jésuites au Portugal. Et alors, donc, 1539, création formelle, disons, de la compagnie de Jésus, 1540, consacré par la bulle du pape hein, de 1540, du pape Paul III, et puis, deux ans après, deux jésuites invités par le roi du Portugal. Et bon, alors, on peut se poser des questions. Alors, d'une part, le roi Jean III de Portugal voulait l'établissement d'un collège jésuite. Mais les jésuites, les collèges jésuites, tout début dans les années 1540, sont simplement destinés à la formation des jésuites, mais ne sont pas destinés à l'enseignement. Donc, on voit que peut-être le roi de Portugal entrevoit une possibilité justement d'introduire les jésuites dans l'enseignement, de leur donner un rôle dans l'enseignement. Et puis, aussi, avoir des jésuites en Asie. Et alors, donc, très vite, les deux jésuites qui arrivent au Portugal, un va rester au Portugal pour créer un collège, l'autre, François Xavier, va être envoyé tout de suite à Goa pour représenter les papes. Et il y a des suppositions, je ne sais pas si elles sont vraies, on a dit que les Portugais, le roi du Portugal, considérait un peu que les jésuites étaient les successeurs des Templiers. Les jésuites sont d'accord, enfin, c'est une hypothèse. Mais en tout cas, le roi considérait que les jésuites pouvaient jouer un rôle important pour convertir les populations asiatiques.
L'extrême-orient de Saint-François-Xavier, nous retrouvons Michel Cartier.
Voilà donc, François-Xavier qui est arrivé, part de Lisbonne. Il arrive dans l'océan Indien dès 1542, c'est-à-dire presque tout de suite. Et il va d'abord à Cochin, et puis il va d'abord être, je ne dis pas, avoir une action missionnaire dans ces petites bases portugaises. Et il l'amène jusqu'aux îles Moluques. Pendant la première partie de son séjour, il arrive en 42, il reste 10 ans en Asie, jusqu'en 49, dans les sept premières années de l'apostolat de Saint-François-Xavier en Asie, ça, c'est de rester dans ces petites bases portugaises et de visiter les pauvres, essayer de convertir les gens, etc. Et puis essayer de s'assurer qu'on n'a pas simplement christianisé pour la forme, comme on le faisait beaucoup, mais qu'essayer de créer. Et il définit déjà une stratégie un peu différente. Il essaie à la fois de se distancier de l'autorité portugaise, on a fait allusion, de ne pas apparaître simplement comme un religieux au service des Portugais, et puis de créer une sorte d'avoir un apostolat pour les indigènes, et tout de suite, il considère que c'est très important de traduire dans les langues du pays. Ce que les Portugais ne faisaient pas, puisque les Portugais étaient en contact avec beaucoup de gens, les chrétiens, mais on parlait portugais. Bon, les Portugais ne parlaient pas, en général, les langues des pays où ils venaient, ou des pays qui se trouvaient, les bases qu'ils avaient fondées en Asie. Et donc, il y a déjà une espèce de projet. François-Xavier, par exemple, visite ce qu'on appelle la côte des pêcheurs, c'est-à-dire le sud du Malabar, et puis Ceylan, où il y a une base portugaise, etc. Et chaque fois, il essaie de toucher directement les indigènes, d'essayer de faire traduire, par exemple, notre père dans la langue locale, etc., et puis de se distancier des Portugais. Et alors, comment a-t-il l'idée d'aller plus loin? Bon, finalement, ce n'est pas... Je dis, à l'époque, peut-être qu'il y a eu... La Chine a été en contact avec le christianisme, mais je vous dis, on n'identifie pas la Chine des Ming, de l'Empire des Ming, à la Chine de Marco Polo, ou à la Chine du père de Rubruk, etc. Donc on ne sait pas, on sait que les Mongols sont des ennemis de la Chine. Les Portugais savent que la Chine est menacée par les Tartares, donc ils savent que c'est des gens qui sont au-delà de la Grande Muraille. Bon, ce n'est pas des gens qui sont sur le territoire chinois, mais il y a tout de même une légende, c'est l'apostolat de Saint Thomas. Et Saint Thomas, qui serait le premier apôtre de l'Asie, Saint Thomas, d'ailleurs, qui est enterré, on suppose, sa tombe est près de Madras actuellement, dans la banlieue de Madras, et les Portugais donnent à leur établissement là le nom de Saint Thomé. Bon. Et donc les Portugais ont l'idée, François Xavier a l'idée que l'Asie a connu le christianisme. Mais dire, ce n'est pas le souvenir de Saint-Louis ou du XIIIe siècle qui vient à l'esprit des gens, c'est beaucoup plus Saint Thomas. C'est l'idée que les Chinois... Et alors, une autre idée qui va faire son chemin, c'est que les Chinois, quand on commence à les connaître, c'est plutôt quand les Espagnols, plus tard, à partir des années 60, 1560, arrivent en Espagne, que les Espagnols pensent que, puisque les Chinois ont une écriture hiéroglyphique, qui sont peut-être des descendants qui sont venus du Proche-Orient, puisque on sait que l'écriture égyptienne est connue, mais on ne la comprend pas, ou bien qu'ils seraient des Hébreux qui seraient venus, ou encore ce seraient des Hébreux, des descendants de Noé, qui après le déluge seraient tout de suite partis en Extrême-Orient. Donc il y a derrière l'idée présente à l'esprit de François Xavier, l'idée que les Chinois ne sont pas très différents de nous. C'est plutôt une idée qu'ils ne sont pas très différents. La Chine est impossible, est fermée, complètement fermée aux Portugais, qui sont, comme je l'ai dit, considérés comme des pirates. Et alors, c'est par l'intermédiaire du Japon que François Xavier va entrer en Chine. Et alors, a-t-il l'idée d'aller au Japon? Alors, là aussi, c'est assez rapide. Les premiers Portugais arrivent au Japon, donc 1542-1543, c'est pas exactement, on n'est pas tout à fait sûr. Bon, François-Xavier arrive au Japon 1549, donc 6 ans après. Donc c'est très très vite. Et il dit d'ailleurs quelque part, il dit les Portugais sont là depuis 7 ans. Dans une de ses lettres, il dit les Portugais sont là depuis 7 ans. Bon. Comment a-t-il l'idée d'aller au Japon? C'est parce qu'il rend à Malacca, qui était un endroit où on rencontrait toutes sortes de gens, il rencontre 3 Japonais qui viennent précisément, alors qui sont probablement, je ne dis pas que c'était des pirates, mais en tout cas qui viennent de la région de Kagoshima, du Kyushu, qui étaient les régions d'où venaient les pirates, donc qui ne sortent, eux qui avaient parfaitement le droit de quitter le Japon, hein, puisque les autorités japonaises, comme je vais vous le montrer, le Japon n'était pas unifié, donc n'importe qui pouvait faire n'importe quoi. Et alors, François Xavier rencontre un de ces Japonais qu'il appelle Anjiro. Alors bon, Anjiro, c'est un prénom, mais il faut penser qu'au XVIe siècle, les Japonais du peuple n'avaient pas de nom de famille. Donc on ne sait pas, ou en tout cas, dans beaucoup de cas, ils n'avaient pas vraiment de nom de famille, donc ils n'avaient qu'un nom. Donc on ne sait pas exactement qui est ce Anjiro, mais on sait que c'est un Japonais de Kagoshima qui a des entrées auprès du seigneur local. Bon. Et alors, ce Angelo, bon, qui parlait portugais, donc ce qui montre que, bon, évidemment, il fréquente l'Asie du Sud-Est et les Portugais depuis plusieurs années, va dire à François Xavier, les Japonais qui ne sont pas du tout des musulmans, où il n'y a pas du tout de musulmans, où il n'y a rien, mais ce sont des gens qui sont très prêts à accepter la religion chrétienne. Alors, François-Xavier dit, bon, pourquoi pas. Et alors, François-Xavier emmène les trois jeunes Japonais, dont Angelo, à Goa, et il leur fait faire, justement, les exercices spirituels. Donc, il a une éducation, mais il y a un collège à Goa, mais ce n'est pas vraiment un collège, c'est plutôt un endroit où les jésuites, où il y a déjà un certain nombre de jésuites et où on se forme. Et ces Japonais vont faire des études, c'est-à-dire ils font un mois d'exercice spirituel. Et ensuite, Angelo va partir au Japon avec François-Xavier et un autre, deux jésuites, disons. Ils vont partir tous les trois. Et alors, il est intéressant de montrer que bon, le voyage se passe en 1549, donc 7 ans après que les Portugais soient venus au Japon pour la première fois, mais ils voyagent sur un bateau chinois, parce qu'il n'y a pas de bateau. Donc, c'est un bateau qui fait de l'interlope. Il n'y a pas nécessairement, ce ne sont pas nécessairement des bateaux japonais. Il n'y a pas très peu de bateaux portugais. Les Portugais y vont, mais ils n'ont pas d'autorisation légale. Ils viennent, ils se vendent de leur poivre et puis ils repartent. Et donc, François-Xavier arrive à Kagoshima avec Angelo, qui le présente à son seigneur local. Et François-Xavier commence à convertir des Japonais. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que François-Xavier va rester 2 ans, un peu plus de 2 ans au Japon, 1549 à 1551. Bon, on dit qu'il a baptisé un millier de personnes. Évidemment, on peut se dire, bon, il y avait deux jésuites, ils étaient deux, il y avait quelques Japonais chrétiens, donc bon, on ne peut pas penser qu'ils aient eu beaucoup de temps pour consacrer à convertir les Japonais, à leur expliquer ce que c'était que le christianisme. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, bon, les Japonais vont percevoir les chrétiens comme une sorte de bouddhistes. On va utiliser le bouddhisme comme porte d'entrée, parce qu'il y a un certain nombre de ressemblances entre le bouddhisme, au moins certaines, surtout la secte qu'on appelle la terre pure, et le christianisme, qui vont être exploitées. Mais en même temps, quand les Japonais vont découvrir que ce ne sont pas des vrais, bon, les Japonais disent, oui, ça doit être une secte bouddhique qui est parti très loin à l'Occident, puis qui revient, mais ce n'est pas tout à fait des vrais bouddhistes, parce que bon, il y a des différences. Et alors, l'activité de François-Xavier va se consacrer à des polémiques avec les bouddhistes pour voir jusqu'où on peut. Alors, on considère le bouddhisme une façon d'entrer dans la culture japonaise, de convertir les Japonais, parce que, par exemple, les bouddhistes croient à l'enfer, ils pensent qu'après la mort, au paradis où on va en enfer. Bon, puisque c'était ce qu'enseignait la secte de la terre pure. La terre pure veut dire le paradis. Bon, mais par exemple, la différence, c'est que quand les Japonais sont surpris parce qu'ils disent, ben, oui, mais on peut sortir de l'enfer, par exemple, parce que les moines peuvent vous prier pour vous et puis vous faire sortir les morts de l'enfer. Et puis aussi, les Japonais pensent que les morts vont ressusciter, bon, pas ressusciter, mais la transmigration des âmes. Donc, les âmes sont immortelles, mais elles vont se transporter d'un corps dans un autre. Et alors, donc, François-Xavier a conscience qu'il y a des problèmes, qu'il y a des ressemblances qu'on peut utiliser. Et alors, toute son énergie au Japon, alors, bon, bien sûr, on dit qu'il a appris le japonais. Il n'est pas resté assez longtemps. Bon, et il s'appuie sur des interprètes. Il n'a jamais eu véritablement le temps de se mettre à l'étude sérieuse du japonais. En tout cas, pas pour pouvoir discuter avec des moines. Mais il considère que les moines sont les intellectuels. Et donc, c'est très important de polémiquer ou de convaincre des moines. Les bons, parce que ce sont dans le Japon féodal, ce sont les bons ont le même rôle, tiennent le même rôle que les clercs dans le monde féodal européen. Donc on est entre bons, disons. Et François-Xavier, ce n'est pas François-Xavier qui dessine, enfin, mais par la suite, les jésuites au Japon vont essayer de se glisser dans la vie des bonzes et de rentrer. Puis de... Mais alors, donc il va aussi appliquer ces règles qui sont, bon, tout de suite essayer de traduire en japonais, traduire des petits textes en japonais pour que ça soit accessible directement en japonais. Mais personne n'a appris la langue, ne sait écrire le japonais. D'ailleurs, jusqu'à 1580, beaucoup de Portugais disent que ça ne sert à rien d'apprendre ces langues trop compliquées, ces écritures impossibles à comprendre. Et puis même les religieux simplement écrivent, les religieux écrivent le japonais phonétiquement. Et donc, bon. Et alors, je vais terminer rapidement, puisqu'on me rappelle que... Bon. Alors, François Xavier va concevoir un plan, bon, je terminerai là-dessus, puisqu'il va le prolonger en Chine. Il dit, le plus simple, je vais aller voir le roi du Japon, et puis le convaincre à la fois de reconnaître, de faire un traité de commerce avec les Portugais, et d'ouvrir le principal port japonais, qui est le port de Sakai, dans la banlieue actuelle, c'est la banlieue de Osaka, qui était le grand port libre du Japon. Et puis, deuxièmement, on va demander au roi du Japon d'autoriser de prêcher le christianisme. Et François Xavier fait l'expédition, va de Kyushu, où il était installé, jusqu'à Kyoto, enfin l'actuel Kyoto. Il n'y reste que 11 jours, parce qu'il découvre que l'empereur n'a aucun pouvoir, que le Japon est un pays en état de guerre, en guerre civile, que tout le monde se fait la guerre, et que de toute manière, on ne peut pas rencontrer l'empereur comme cela. Et alors, je vais terminer là-dessus. Au Japon, les Japonais, une des objections que les Japonais lui font, c'est, vous nous racontez, c'est très bien, bon, il y a beaucoup de choses qui ressemblent, nous on sait, le paradis, l'enfer, tout ça, nous on connaît, bon, l'âme, on connaît, bon, mais... Pourquoi les Chinois, qui sont nos maîtres, ne connaissent pas votre religion? Et alors, François Xavier dit oui, effectivement. Mais il dit, donc, il se dit, il faudrait aller voir les maîtres des Japonais et essayer de faire la même opération, partir, les convertir. Et donc, il va, en 1551, François Xavier quitte le Japon, il rentre à Malacca, puis à Goa, et alors, il a l'idée... On va envoyer une ambassade en Chine, aller trouver... mais alors, pas sous une ambassade portugaise, puisqu'on sait qu'il vaut mieux pas se présenter comme portugais. On va se présenter comme une ambassade du pape. Les Chinois ne connaissent pas le pape, et le pape n'est pas un pirate. Donc, nous allons... nous irons à Pékin, nous présenterons des cadeaux à l'empereur chinois, ou au roi de Chine, puisqu'il pensait être un roi, et nous essaierons peut-être au moins de le convaincre d'accepter qu'on prêche le christianisme, et peut-être même on pourrait le convertir, et en convertissant l'empereur, il fera comme Constantin, il convertira tous ses sujets. Et alors voilà l'idée qu'ils échafaudent, mais il faut financer une ambassade, et une ambassade, ça demande des cadeaux importants. Et alors, François-Xavier va s'entendre avec un ancien gouverneur de Malacca, qui l'avait favorisé au moment où il était parti au Japon, mais qui avait changé, qui va investir dans une opération, qui va donner beaucoup d'argent pour envoyer des cadeaux. Le bateau ira à Canton en se présentant comme une ambassade du pape, et à ce moment-là, il sera... Mais l'opération échoue parce que les Portugais de Malacca considèrent que c'est trop dangereux et ils confisquent le bateau. François-Xavier va donc partir sur un bateau chinois, encore une fois, un bateau clandestin. Il arrive à l'île de Shangchuan, ce qu'on appelle Sanxian, les Portugais appellent Sanxian, bon, qui est une petite île qui est dans No Man's Land, que les Portugais connaissent à quelques dizaines, une centaine de kilomètres de Canton, une centaine de kilomètres à peu près, et il va là attendre, et puis il dit, mais il faudra un bateau qu'on puisse l'introduire. Et alors, il va faire une opération. Il va promettre à un marchand chinois de Malacca une somme assez importante, je crois 2 tonnes de poivre, pour l'amener à Canton et débarquer. Malheureusement, bon, François-Xavier attend dans son île. Le Chinois, qui pense que l'opération est probablement quand même dangereuse, n'est jamais venu. Je ne sais pas s'il a touché ses 2 tonnes de poivre, ou bien peut-être qu'il a touché ses 2 tonnes de poivre. On ne sait pas. François-Xavier est malade et il va mourir là, en vue des côtes de Chine, on dit. Enfin, c'est quand même pas tout à fait en vue, parce qu'il y a 40 ou 50 kilomètres. Je crois, bon, peut-être que par très beau temps, on arrive à voir. Et c'est là qu'il meurt, finalement, sans avoir jamais été en Chine. Et alors, je dirais en conclusion, si on regarde, j'avais justement des diapositives de cartes, j'avais fait des diapositives de cartes portugaises. Alors, ce qui est très intéressant, c'est de voir que, par exemple, sur les cartes portugaises, alors que les Portugais arrivent au Japon en 1542, le Japon n'apparaît sur les cartes portugaises qu'en 1558, ce qui montre qu'on était quand même dans l'illégalité. Bon, et que les Portugais ne voulaient pas non plus qu'on révélait leur relation avec le Japon.
L'Extrême-Orient de Saint-François-Xavier, vous venez de suivre une conférence de Michel Cartier, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et secrétaire général de l'Institut Ricci à Paris. Conférence enregistrée le 19 avril 2006 à Bayonne, lors du colloque du 5e centenaire de la naissance de Saint-François-Xavier, 1506-1552.